Salut tout le monde, voici un article de recherche super intéressant qui a retenu mon attention. Je pense qu'il va à l'encontre de nombreux raisonnements courants auxquels la plupart des gens pensent. Cet article s'intitule « Notre nouveau test. Tout ce dont vous avez besoin pour améliorer le raisonnement par modèle de langage large sans retour verbalisé » et est publié par l'Université Aarhus au Danemark. Cette étude est globalement intéressante, car ils testent le raisonnement et inventent une méthode incroyablement simple, utilisant leurs propres mots. Vous avez remarqué que sur ma chaîne, je ne suis pas un grand fan du raisonnement en général. Je n'ai pas beaucoup de vidéos dessus. J'en ai quelques-unes, comme DeepCR1, etc. Mais en ce qui concerne les modèles de raisonnement en général, je ne pense pas qu'ils soient la solution miracle. Globalement, je pense que beaucoup de gens souhaitent qu'il fonctionne, mais la plupart ne comprennent pas pleinement l'architecture globale du framework ni le fonctionnement précis de Transformers. En résumé, pour moi, concernant ces modèles, n'est-ce pas? Le fait que les gens souhaitent autant que le raisonnement fonctionne dénote, selon moi, une mauvaise compréhension de la manière dont Transformers acquiert ses avantages en termes de calcul. Je vais approfondir ce sujet. Mais ce que je déteste le plus dans les modèles de raisonnement, c'est qu'ils ont testé GPT-4 et ses capacités de raisonnement sur plusieurs tests. Mais dans ce cas précis, pour le jeu 24, juste pour un benchmark, les capacités de raisonnement coûtaient 600 $. Les seules personnes qui me supplient pour que ces modèles de raisonnement connaissent un tel succès sont OpenAI, Nvidia, etc. Parce que ça coûte entre 200 et 600 $. Je ne pense pas que les gens comprennent ça. On pourrait simplement acheter un ordinateur plutôt que de poser une seule question à un modèle de raisonnement. C'est le coût dont on parle. Je ne pense pas que les gens l'analysent vraiment à ce niveau. Mais pour en revenir à ce qu'ils font dans cette étude, ils font très précisément des tests. Tout d'abord, ils introduisent leur propre méthode, n'est-ce pas? Comme je l'ai mentionné, ils appellent ça des réessais sans retour. Et comme ils le disent, c'est un mécanisme incroyablement simple mais efficace qui améliore les cadres de raisonnement en leur permettant de réessayer une résolution de problème dès qu'une réponse incorrecte est identifiée. C'est tout ce que fait le cadre, n'est-ce pas? Le test est-il donné, et le modèle obtient-il une bonne réponse? Oui ou non? Sinon, le modèle repasse la question. Aucun retour n'est donné, rien. Juste, la question est reposée. La question est reposée, c'est ça, c'est tout. Ensuite, ils ont testé cela par rapport à d'autres méthodes, comme la recherche par chaîne de pensée et le raisonnement profond. Il y a deux méthodes. La réflexion et la méthodologie de l'arbre de pensée. Plus précisément, ce que nous pouvons observer, c'est que, tout au long de ces tests, ils évaluent à la fois la qualité et le coût. Les deux méthodes les plus simples sont la méthode YO, la plus simple, et la méthode par chaîne de pensée. Tout le reste devient plus complexe à partir de là. On utilise un raisonnement avancé, etc. et une chaîne de pensée, comme nous l'avons expérimenté il y a 3 ans. On constate que les méthodes les plus simples obtiennent non seulement les meilleurs résultats dans ces benchmarks, mais aussi les plus rentables. Ce sont les solutions les moins coûteuses, dans ce cas précis, qui surpassent les solutions plus complexes et plus coûteuses. Et c'est tout ce qu'ils montrent, n'est-ce pas? À chaque benchmark, le coût des méthodes plus complexes est plus élevé, et elles n'en tirent évidemment aucun bénéfice. Les méthodes les moins chères et les plus simples les surpassent. Vous payez donc 200 $ pour une méthode que je pourrais utiliser avec une ingénierie rapide et qui vous surpasserait. Cette étude montre précisément ce qui se passe à ce sujet, en détail. Concernant le raisonnement des modèles, voici leur méthodologie complète. Ils ont testé sur un GPT 40 mini et un Llama 3.3B chez SunnyB. Vous pouvez voir ici, à chaque fois, l'évaluation humaine est le seul test où investir beaucoup d'argent peut donner un avantage si on l'utilise pour l'arbre de pensée. Mais c'est tout, n'est-ce pas? L'évaluation humaine est le seul test où investir tout cet argent. C'est donc intéressant pour moi, dans l'ensemble. Investir une somme colossale dans cette méthodologie lui permet de passer les tests d'évaluation humaine, mais pas les tests de référence. Intéressant. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne globalement, non? Ça expliquerait pourquoi les gens apprécient la méthodologie et le cadre en général. Il semble que cela corresponde parfaitement à ce qu'un humain lambda rechercherait en matière de performance réelle, mais pas en ce qui concerne la façon dont les benchmarks se décomposent. C'est donc très intéressant pour moi dans l'ensemble. Et cela me ramène en haut à droite, où j'ai évoqué avec force les modèles de raisonnement, expliquant pourquoi c'est un gaspillage d'argent et une incompréhension totale de l'architecture du transformateur. Parlons-en. Et avec tous ces tests, on constate très simplement que nos scores de qualité sont bien plus élevés grâce aux benchmarks, et ce, avec les méthodes les plus simples. N'est-ce pas? Et c'est ce que tous ces tests illustrent ici, chacune de leurs évaluations et tous ces benchmarks. Pourquoi? Si vous comprenez bien, j'ai déjà fait cette analogie à plusieurs reprises sur ma chaîne. Le fonctionnement de l'architecture du transformateur, et c'est un peu accidentel, non? Les chercheurs l'ignoraient, personne ne savait en 2017 que c'était ce qui se passait réellement dans les modèles. Il s'agissait simplement de créer de l'attention en 2017, et ce qui se passe, c'est la création du mécanisme d'attention au sein du bloc transformateur et son fonctionnement en tant qu'unité. Il fonctionne un peu comme une carte de crédit en termes de calcul, n'est-ce pas? Cela permet de prépayer les coûts de calcul au sein de cette unité transformateur. Et ensuite, l'entraînement de l'unité transformateur est le compromis, n'est-ce pas? Vous débitez donc la carte de crédit via l'apprentissage des données, puis vous entraînez le modèle. Ensuite, lorsque vous souhaitez utiliser ces calculs après l'apprentissage, c'est là que vous pouvez débiter la carte de crédit, n'est-ce pas? Il y a des remarques spécifiques qui, comme pour une carte de crédit classique, comportent des intérêts. Vous allez payer plus cher pour le privilège d'avoir une carte de crédit que pour ne pas en avoir, etc. N'est-ce pas? Beaucoup de facteurs entrent en jeu. En fin de compte, la principale caractéristique de Transformers, contrairement à toute autre architecture, est le prépaiement des calculs de la carte de crédit. Ensuite, en ce qui concerne le raisonnement, ce raisonnement consiste essentiellement à essayer d'utiliser le calcul du point de vente, n'est-ce pas? Mais c'est une carte de crédit, comme si vous l'aviez déjà, et le modèle est une carte de crédit. Ce n'est pas une bonne banque ou une réserve fédérale, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que sont les modèles. Ce n'est pas ce que sont les Transformers. Les Transformers sont une carte de crédit, n'est-ce pas? Et puis, donner accès à une carte de crédit à une réserve fédérale, ça n'a rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Comme si le modèle ne savait même pas quoi en faire. Et c'est ce qu'on voit dans ces choses, n'est-ce pas? Et puis, pour moi, c'est un concept très intuitif et humain. Bien sûr, ça me semble logique. En donnant au modèle plus de raisonnement, plus de puissance de calcul pendant le raisonnement, plus de puissance pendant les tests, il sera plus performant, n'est-ce pas? Mon cerveau logique et mon processus de raisonnement me disent que cela se produirait, d'après tout ce que je sais du fonctionnement du raisonnement humain. Dans ce cas précis, ces modèles ne raisonnent pas selon un humain, n'est-ce pas? Ils raisonnent selon des normes complètement différentes, que nous comparons ensuite aux normes humaines. Mais, le mécanisme sous-jacent est complètement différent de tout ce que l'on pourrait y voir, n'est-ce pas? Et puis, encore une fois, C'est plutôt ce système de type carte de crédit qui explique le raisonnement. Le raisonnement par carte de crédit et le paiement au moment de la transaction sont deux modèles différents, n'est-ce pas? Deux cadres différents, et utiliser le cadre du paiement au moment de la transaction ne fonctionne pas aussi bien pour une carte de crédit en général. C'est juste la façon dont ça fonctionne. Et c'est là le principal point à retenir de cette étude pour moi. Et c'est ce qui m'intéresse, et c'est pourquoi je souligne encore une fois pourquoi j'évite les modèles de raisonnement et tout ça sur ma chaîne. J'évite tout ce que je considère comme un gouffre financier, n'est-ce pas? Je ne construis pas de modèles fondamentaux et je ne le ferai jamais, parce que c'est, pourquoi dépenser plus d'1 million de dollars, littéralement, pour le privilège de, que personne ne s'en soucie? Et ça ne mettrait pas le monde à feu et à sang. Et puis, dans le même ordre d'idée, pourquoi payer 200 à 600 dollars à chaque fois que je veux proposer un modèle, alors que je pourrais soit A, utiliser l'ingénierie des suggestions, soit B, aller au magasin et acheter un nouvel ordinateur à chaque fois que je voudrais poser une question dans ce cas précis. Et ce serait en fait une meilleure utilisation de mon argent dans ce cas-là que de dépenser 600 dollars pour le gaspiller dans une pété tragique, comme s'il s'égarait et raisonnait sur ses propres hallucinations. Et c'est un peu ce que cela me montre globalement. Je laisserai un lien vers cet article de recherche. Rétroaction, tout ce qu'il vous faut. Améliorer le raisonnement par grand modèle de langage sans retour verbalisé. Et si vous aimez ce type de contenu, aimez-le et abonnez-vous. Merci beaucoup.